Donc c'est pas parce que tout d'un coup on allait acheter mes disques que ça changeait quelque chose. J'ai toujours pensé que je chantais bien. On peut ne pas aimer ma voix, on ne peut pas aimer mes chansons, mais je chante bien, c'est pas de ma faute.
Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus.
Alors, c'est la maison de Wouten Levenbach.
Vous êtes arrivé?
Oui, on est arrivé. Parce que le vrai nom de Dave, c'est Wouten.
Pour cet épisode de Vieille Branche, on est allé chez Dave. Dave le chanteur. Il habite dans une maison, dans un coin très protégé de Paris. Il y vit depuis à peine 2 mois et la partage avec Patrick, son compagnon depuis plus de 48 ans. Patrick Loiseau, c'est aussi l'auteur des paroles de ses plus grands tubes. Avant que vous écoutiez cet entretien, je vous préviens, j'ai beaucoup trop ri pendant toute cette interview. Alors, j'ai essayé que ça ne perturbe pas trop votre écoute, mais si c'est le cas, prenez-vous-en à Dave, c'est lui qui a fait toutes les blagues.
Bonjour.
C'est bon. Autre avertissement avant l'écoute de notre entretien, il se passe pas mal de choses dans la cuisine et le jardin pendant que nous parlons. Alors, si vous entendez un aspirateur, c'est ici que ça se passe, dans votre oreille et pas chez vous.
Moi, j'étais venu parce qu'il y a ma copine Bartan qui habite là depuis longtemps. Je connaissais, mais je ne pensais pas un jour y habiter. Je suis sûrement le plus pauvre de la ville de Montréal.
J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout de la vie, encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de La Planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis. Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je suis Marie Misset et aujourd'hui, je taille le bout de gras avec Dave dans sa cuisine. Bonjour Dave.
Bonjour.
Ou devrais-je dire Wouter Otto Levenbach?
Si vous le prononcez bien, ça sera bien, mais quand vous dites Wouter, et c'est Wouter, parce que Wouter, pour un chanteur, c'est gravissime. Voulez-vous Wouter? Non, Wouter, on dit Wouter.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous appellent Wouter?
Hélas non, parce qu'ils sont morts. C'est vrai, mes parents m'appelaient comme ça. J'ai encore même encore 2 frères, j'ai plus ma sœur, mais j'ai encore 2 frères, et ils m'appellent Wouter.
Oui. Ils vous appellent Wouter?
Ouais. Wouter, c'est
Otto...
Gauthier en français.
C'est vrai?
Je oui, Walter, son en allemand, Gauthier, Guillaume William, j'ai en langue latine, ça change en double en français, etc. Non, c'est le contraire.
Et donc Gauthier, bonjour Gauthier.
Oui, si vous voulez, oui.
Dave, vous faites partie des figures qu'on connaît, qu'on reconnaît. J'ai encore fait le test en famille ce week-end en disant je vais interviewer Dave et il n'y avait pas une personne qui ne savait pas qui est... Vous étiez dans la pièce, il y a des gens entre 15 et 80 ans, donc je pense qu'on peut le dire. Vous avez traversé des époques et des modes, parfois un peu plus douloureusement, mais le plus souvent avec panache. Vous êtes chanteur avant tout, vous avez été à l'origine de tubes que tout le monde écoute encore aujourd'hui et qui souvent ont été écrits par votre compagnon de toujours.
Quasiment toujours, oui. Oui, oui,
Patrick Loiseau.
Ouais.
Vous êtes aussi un papillon de nuit, Dave, en tout cas vous l'avez été dans presque tous les sens du terme. La nuit parisienne, vous l'avez épuisée et puis on ne va pas se mentir, vous êtes irrémédiablement attiré par la lumière.
Oui, 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 absolument, ça a commencé très jeune, oui, c'est vrai.
Et vous l'assumez d'ailleurs pleinement.
Ben oui, ben c'est-à-dire comme la plupart des artistes, mais pas que des artistes, ça peut être pareil pour un homme d'affaires, on aime bien être celui qui parle et que les autres écoutent respectueusement ou pas. Mais moi, je me souviens, quand j'étais, mon père était d'origine juive, mais il était protestant. Et quand on était allé au temple, le pasteur, qui était une très jolie femme, donc la pasteur, aux Pays-Bas, je ne sais pas si c'est pareil en France, il porte des espèces de toges, comme en France, les avocats. Truc noir avec un machin blanc. Et je voulais être à sa place, déjà. Ma mère m'a amené à un concert et je me souviens notamment de Segovia, qui était un guitariste très célèbre à l'époque. Je voulais être Segovia, donc c'est vrai que j'ai toujours voulu ça, ouais, quelque part.
C'est quoi pour vous exactement un chanteur ? Parce que vous dites « je suis un chanteur », ça recoupe quoi comme... C'est quoi la définition ?
C'est vivre en chantant, c'est-à-dire qu'au début, on ne peut pas trop le dire. C'est comme tu rencontres quelqu'un dont tu ne sais absolument pas ce qu'il fait dans la vie, parce qu'il n'a pas fait carrière encore ou parce qu'il ne va jamais le faire, qui veut dire « je suis écrivain ». Tu dis « qu'est-ce que tu as écrit ?»« Ah, mais je suis en train de... » Non, attendons un peu, tu peux dire « j'écris ». Donc au début, quand on me disait « qu'est-ce que je faisais ?», je disais « je chante ». Mais comme ça fait 50 ans que je vis de ma voix et de la chanson, je peux dire tout doucement que je suis chanteur quand même. Mais cela dit, Van Gogh pouvait dire qu'il était peintre et il n'a jamais vendu de tableau de sa vie. Hein.
Quand est-ce que vous situez, vous, le début de votre vie, Dave ?
À partir du moment qu'on s'en souvient, peut-être. Moi, dans mes plus lointains souvenirs... C'est d'ailleurs une question que les journalistes posent parfois à des chanteurs. Quelle est la première chanson dont tu te souviens ? Et moi, je me souviens, c'est une chanson d'un chanteur de blues qui s'appelle Leadbelly, ou de son vrai nom, Huddy Leadbetter, et qui dit « Irene, good night ». Et c'était dans la rue, d'Amsterdam, ce qui fait que je sais que j'avais maximum 5 ans parce qu'on a déménagé après. Donc ça fait partie de mes premiers souvenirs. Il y a des gens qui ont des souvenirs bien plus tôt que ça. Moi, je me souviens pas de ce qui s'est passé hier, mais ça, c'est l'âge.
Vous avez eu une enfance relativement très heureuse, en tout cas jusqu'à un certain âge.
Relativement très heureuse, c'est peut-être un peu contradictoire, mais non, heureuse tout court.
Et puis un jour, tout a volé en éclats.
Disons que j'étais dans une cellule familiale, comme on dit, en effet, sans problème. Papa, maman, mes deux frères, ma sœur, j'étais avant télé, donc on jouait au Scrabble, au Bridge.
Au Mahjong.
Pas aux Pays-Bas, pas tellement. Et puis la télé est arrivée, donc on se parle un peu moins, mais c'était quand même... Mon père était prof, donc pas riche, mais il était d'une famille fortunée, donc juif, et donc il a eu pas mal d'argent après la guerre, parce que les autres étaient tout simplement morts. Donc on avait la chance d'avoir une belle maison avec des arbres. Je voyais de ma chambre des arbres, et je pense que ça, je le vois d'ailleurs aujourd'hui de ma chambre, enfin n'est pas de ma chambre, je ne veux pas vous croyez que je suis avec les journalistes dans ma chambre.
Mais dans une cuisine, autour d'une table.
Oui, exactement, c'est bien de le préciser. Donc voilà, c'était en effet sans problème, et puis un jour, mon père a eu des problèmes de démon de midi, et puis il est parti avec une femme bien plus jeune, et donc c'était un peu la fin de la famille, mais pas des liens familiaux quand même.
Qui était la bonne ?
Il y a une chanson, vous ne connaissez pas, mais Dani, la chanteuse Dani, avait chanté une chanson « Papa a épousé la bonne, oh, quelle idée, là, mon petit papa !» Et bien, mon père a fait ça. C'était donc pas une histoire d'écu, parce qu'il est resté longtemps avec. Même si ça avait été une histoire d'écu, c'est son droit le plus strict. Mais pour mon petit frère, moi, je comprenais déjà un peu, j'avais 17 ans quand je l'ai su. Mon petit frère en a voulu longtemps à mon père et à cette pauvre femme qui n'était pour rien.
Mais vous, ça vous a mis même sur le coup très en colère, quand même.
Non, pas vraiment. J'étais plutôt très... Enfin, je pense, j'ai peut-être transformé mes souvenirs, mais plutôt très, très, très attristé pour ma mère. Parce que ma mère, comme moi, nous sommes des gens à un amour. Parce que moi, ça fait 40... Le 7 février, donc ça y est, ça fait 48 ans avec la même personne. Donc là, elle était totalement foutue, déboussolée, même s'il a continué à vivre... Bien, hein, elle ne s'est pas suicidée pour autant, mais c'était plus pareil, quoi.
Oui.
Donc, c'était triste pour elle. Moi, ça allait, c'était l'époque où juste après, j'ai passé mon bac, je me suis installé dans un studio à Amsterdam et je me suis éclaté, j'ai fait ma vie, quoi.
Vous êtes très proche de votre mère, vous venez de le dire. D'ailleurs, ce n'est pas que vous avez pris son parti, mais vous avez été là pour la protéger après la séparation.
Oui,
mais
enfin, je pense que la plupart des enfants sont proches de leur mère, sauf si votre mère était une vipère.
Elle vous a transmis quoi ?
Du côté de ma mère, je pense un côté très néerlandais, très rationnel. Ma mère est d'une famille du nord des Pays-Bas qui s'appelle la Friesland. Donc, c'était encore plus germanique quelque part, plus arien. Mais elle était très honnête, très intègre. Là, je m'en vais des compliments parce que je tiens de ma mère. Mais en même temps, comme du côté de mon père, qui ressemble un peu à un dessin antisémite, parce que, comme je disais, il était d'origine juive, il avait vraiment un type très sémite quand même. Donc, donc je suis mélange de deux, donc je peux être menteur. Enfin, j'ai plein de défauts aussi. Hein.
Mais justement, vous venez de l'évoquer à demi-mot, vous avez aussi une histoire marquée par le silence. Les non-dits sur la vie de votre papa pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il n'en a jamais parlé, oui.
Ouais. Qui est né juif, puis qui s'est converti. Du coup, vous n'êtes pas fan des tabous. Ou en tout cas, vous essayez de faire la lumière avant qu'il soit trop tard.
Oui, c'est-à-dire que ça m'a... Moi, la religion m'a toujours beaucoup intéressé. D'ailleurs, quand je voulais devenir pasteur, et c'est mon pasteur, et pas celle dont j'ai parlé qui était une femme, mais une pasteur suivant, quand elle est partie, qui m'a dit non, c'est pas une bonne idée parce qu'il savait qu'il s'attirait par les garçons. Ce qui est totalement ridicule parce que ça n'a rien à voir. C'était pas obligé parce que t'es les garçons d'être un criminel. Mais c'est vrai que vous me parlez de la lumière, c'est drôle parce que un de mes plus beaux souvenirs quand j'ai commencé à être un chanteur à la mode dans les années 70, c'était une institutrice qui avait demandé à sa classe, parce que c'est école primaire, donc de très jeune, de dessiner la joie, et un môme qui a fait un portrait de moi. C'est quand même très, très touchant, quoi. C'est le côté solaire que je peux avoir, même si j'ai aussi un côté ombre, évidemment.
Comment vous l'avez reçu, ce dessin qui vous a transmis, l'institutrice, du coup?
Dans le courrier des fans, quoi. Mais c'est-à-dire que j'avais à l'époque, là c'est plutôt des fanés, mais à l'époque, j'avais des gens, parce que c'était des centaines de lettres par semaine, donc c'était épluché, parce que 9 à 10, c'est Def, vous êtes mon chanteur préféré, est-ce que vous voulez envoyer une photo? Puis parfois, il y avait, sur l'enveloppe, il y avait bien marqué Def, et à l'intérieur, Julien, vous êtes mon chanteur préféré, c'est quelqu'un que je t'en veux. Tromper l'enveloppe, parce qu'ils envoient ça à tout le monde. Hein. Ça rend lucide, quelque part.
Il vous reste quelque chose de cette crise mystique que vous avez traversée à l'adolescence, dont vous venez de nous parler? Alors, vous aviez envie d'être pasteur, parce que c'est le personnage qui est sur le devant de la scène,
oui,
et qui parle, mais il n'y avait pas du tout que ça.
Il y a mon immense générosité.
Votre immense générosité.
Modestie aussi.
Et votre légère spiritualité, peut-être.
Voilà. Non, mais je pense que j'ai vraiment... Alors là, je me suis toujours demandé si c'est par atavisme et hébraïque, pour dire des mots un peu compliqués, si c'est parce que dans mes gènes, il y aura un besoin déiste quelque part, quoi. Parce que c'est vrai que le personnage de Jésus, comme j'ai beaucoup, beaucoup étudié, en tout cas lu la Bible, et aussi bien le côté Talmud dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, et Jésus est quand même... fait partie de mes personnages préférés, un peu avec Alyosha Karamazov, quelqu'un qui sera très bon, que je ne suis absolument pas, mais on peut y aspirer quand même, quoi. Donc, j'avais envie aussi, moi, de partager cette espèce de bonheur, un peu de l'illuminer aux autres. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas l'âme de missionnaire, mais quand quelqu'un a une foi ou une croyance qui est négatif, autant le changer pour le christianisme. Si c'est positif, pourquoi pas être bouddhiste et pas besoin de Jésus pour bien vivre, quoi. Mais moi, je prie encore, quoi.
C'est votre chien?
C'est mon chien. Moi, je pense que là, il va y avoir un problème de son important. Il faut expliquer à nos auditeurs, je sais pas comment on appelle ça, les gens sur le net. On dit auditeur, c'est le chien de Dave et son compagnon qui rentre et qui lui est beaucoup moins bruyant, qui rime beaucoup moins souvent la queue.
Il est tout jeune.
Patrick?
Patrick, je sais à peu près son âge. Bonjour, monsieur. Mais le chien, il est tout jeune.
Oui, il a 2 ans. Elle a 2 ans. Allez, c'est
reparti. Elle est belle. Alors... Vous êtes partie assez jeune de chez vous pour aller à Amsterdam. Est-ce que c'est là que vous avez découvert votre sexualité? Est-ce que c'était un petit peu avant?
Non, c'était quand même avant. C'est-à-dire que je me souviens que j'étais encore au lycée et j'avais vraiment j'ai commencé à avoir les coups de foudre pour des mecs, pour des garçons. Ouais. Et un jour, d'ailleurs, je l'ai avoué à mon père. Mon père était prof d'anglais au lycée où j'étais. Et quand ça correspondait, c'est le début pour lui et pour moi, j'y allais parfois dans sa voiture. Ça, ne pas prendre le vélo. Et je me vois encore lui dire ça dans la voiture en y allant, quoi. Et il m'a dit, ça va te passer. Donc, il y a un petit rejet quand même de cette infantilité. Mais
ça ne vous faisait pas peur de lui dire, en revanche?
Ah non, pas bah du tout. Non. Parce que ma mère étant danseuse, enfin, elle a arrêté de danser quand elle danse une pucelle. En 1944, où elle était enceinte de moi, donc ça ne faisait pas très pucelle. Hein. Donc il fallait bien qu'elle arrête. Mais en revanche, elle a continué à être prof de danse pendant des années et elle avait encore plein de copains dans le monde du ballet classique, quoi, dont, je ne vais pas exagérer, mais plus de moitié étaient homosexuels. Donc ça, il n'y avait aucun problème avec ça. Il y a, en tout cas, pas pour le fait en soi. Après... c'est vrai que quand on est un parent et qu'on apprend que sa fille est lesbienne ou son fils homosexuel, on se dit, les pauvres, pourvu qu'ils peuvent quand même être heureux dans une société qu'il a du mal à l'accepter. Donc, C'est comme si votre fils amène une femme de notre culture, de notre couleur même. On se pose cette question-là, mais en soi, mes parents n'avaient pas de problème avec l'homosexualité. Mmh. Allez-y.
Et du coup, vous l'avez vécu sereinement ?
Ah, complètement. Même, en plus, c'était dans une ignorance totale. Enfin, en tout cas, je m'interdisais de me dire que ça va me poser de problème. D'ailleurs, ça, on n'en avait jamais posé. Non, j'ai un très, très, très joli... En fait, j'ai deux souvenirs contradictoires. Ce que pouvaient penser mes parents, plus spécifiquement mon père. Un jour, je venais de quitter l'école primaire, je jouais au foot encore avec mes camarades de l'école primaire dans le petit village où il y avait beaucoup d'enfants de paysans. Et il y en a un, sans malice, je pense, qui me dit, toi qui, fais du latin à l'école, ça veut dire quoi, homosexuel? Et je ne le savais pas. Et donc, je suis rentré, j'avais donc 13 ans, un truc comme ça, et je vois encore mes parents assis dans le living, et je pose les questions, et mon père, ou ma mère, je ne sais plus qui, a répondu, mais c'est comme ta mère et moi, c'est deux personnes qui s'aiment, mais qui sont du même sexe. C'est que je trouve une réponse formidable, parce qu'il ne parlait pas sexe, il parlait amour. En revanche, quand, bien plus tard, vers 19 ans, je suis rentré, non, j'avais un peu plus, 20 ans, 20, j'avais 22 ans, je suis rentré du bateau. Je voulais présenter un garçon, moi j'étais amoureux à l'époque, à mon père, qui avait donc divorcé entre-temps. Il m'a dit, oui, avec plaisir, mais vous ne pouvez pas dormir là, je ne m'imagine pas deux mecs dans ma chambre d'amis. Et je dis, mais ce n'est pas grave, mais je ne viens pas. Et 10 minutes après, il m'a rappelé pour me dire, excuse-moi, viens. Mais donc, il avait quand même un problème avec ça, quoi. Un bon problème d'hétéro.
Cet ami dont vous parlez, c'était votre meilleur ami, dont vous étiez aussi un peu éperdument amoureux, avec qui vous êtes parti en bateau. Qui s'appelait.
Ah non, mais lui, il n'était pas homo. Hein,
non, je sais.
Non. Quel malheur. Il était très amoureux, il était très beau. Il est mort, malheureusement.
Mais c'est avec lui que vous êtes parti en bateau d'Amsterdam.
Oui, absolument.
Vous avez acheté un bateau et vous êtes parti.
Acheté un vieux rafio, parce qu'on n'avait pas un rond, évidemment.
C'est dingue d'acheter un rafio déjà à 20 ans, 18 ans.
10. Non, là, donc venez d'avoir la majorité, parce qu'à l'époque, c'était 21. Et donc, c'était donc en 1965, au suite 44, et j'avais décidé de partir. Et puis, j'avais décidé, à l'époque, c'était donc l'époque des beatniks, qu'on a un peu oublié, et on se souvient un peu plus des hippies, c'est pourquoi. Les beatniks, c'était beaucoup plus individualiste, en fait. Les hippies, ils mettaient en groupe pour faire des chèvres chaudes ou froides. Et les beatniks partaient juste en voyage pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et donc, je me suis fait engager sur le bateau mouche d'Amsterdam et c'est là où je l'ai rencontré. Et on a mis nos sous ensemble et j'avais bien compris qu'il n'était pas homo, mais j'espérais que ça allait s'arranger. Mais ça ne s'est pas arrangé.
Bon, ça ne vous a pas empêché de rester proche toute votre vie jusqu'à la fin?
Ah, jusqu'à la fin, c'était un de mes meilleurs amis. Mais heureusement que j'ai rencontré donc Patrick après. Et où là, c'était réciproque dans tout le sens du terme.
Mais comment on fait? Vous avez été quasiment pendant 2 ans avec lui tout le temps, puisque vous étiez sur le même bateau.
Sur le bateau, oui.
Vous avez été à Saint-Tropez ensemble, vous avez parcouru d'Amsterdam jusqu'au sud de la France.
Ouais.
Tout ça avec un amour non partagé. Donc j'imagine que se dispute le plaisir d'être avec la personne qu'on aime et la douleur que ça ne soit pas
réciproque. C'est-à-dire que c'est comme dans la chanson de « Ne me quittez pas » de Jacques Brel. « Laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. » À la longue, c'est peut-être compliqué, mais quand on est dans ce dérèglement chimique qui s'appelle être amoureux, on accepte tout. Après, ça se calme. Ça devient plus rationnel, peut-être. Mais si moi, à un moment, j'ai décidé de partir, c'est que je n'en pouvais plus. J'ai expliqué, d'ailleurs, imagine-toi que tu es avec la plus belle femme du monde, tu es amoureux, tu dors dans la même cabine, parce que c'est dans la même cabine. Tu t'entends, tu l'entends la nuit se faire plaisir tout seul, mais tu deviens complètement fou, quoi. Ben, c'est devenu complètement fou, donc je suis parti.
Vous avez réussi à pas devenir complètement fou, du coup?
Non, non.
Et la bisexualité, alors vous, pareil, vous en êtes rendu compte rapidement?
Ah, mais depuis que j'ai des envies sexuelles, on va dire, je sais pas, 12, 13, 14 ans, j'ai toujours été en étant attiré par tout ce qui bouge. Enfin, je suis pas zoophile, hein, sur un plan humain. Mais c'est formidable, quelle chance!
Bah oui!
Ah oui, il y en a deux fois plus de possibilités. C'est très mal vu, hein? C'est mal vu par les homos et c'est mal vu par les hétéros. C'est pas moi qui me suis fait.
Et vous croyez encore aujourd'hui que c'est encore mal vu la bisexualité?
Je pense, ouais, je pense. Moi, j'ai une bonne explication pour ça qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, suivant les périodes de ma vie, en grande partie, c'est quand même des périodes où l'homosexualité était plus forte que l'hétérosexualité, je disais que les garçons Moi, j'ai du mal à dire les hommes. Les garçons, c'est du café et les filles, c'est du Nescafé. Quand il n'y a pas de café, on prend un petit Nes. Voilà. Mais j'ai eu des périodes et c'est tout le contraire.
C'est élégant.
C'est très élégant.
C'est très élégant.
Mais en tout cas, c'est... Non, mais... Je ne sais pas vulgaire. Et puis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas mauvais, Nes. Je trouvais un vrai café. Voilà.
Ça dépend de ce qui est disponible, en fait. Ça.
Exactement. Ouais, j'ai bien compris. Et vous?
Et écoutez,
on enchaîne.
Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu bisexuels?
Ah, ça, c'est des questions d'homosexuels.
C'est une question d'homosexuels. Mais vous n'êtes pas trop engagé sur toutes ces questions. J'ai l'impression que ces dernières années, ça a un petit peu changé. Est-ce que je me trompe? Par exemple, je pense à cette chanson sur l'homoparentalité écrite par votre compagnon. Et
oui, mais ça, c'est une chanson La fille de papa. C'est parce que Marc-Olivier Fogiel, qui fait partie de mes quelques amis, j'ai aussi des amis inconnus, mais c'est deux amis connus que sont Daniel Auteuil et Marc-Olivier Fogiel. Mais
et Sylvie Vartan.
Ah, c'est une relation amicale. C'est, non, je ne dirais pas que c'est une amie. J'espère qu'elle n'écoute pas, elle serait fâchée. Mais... Non, c'est pas pareil, quoi. On s'aime bien, je crois. Non, un ami, c'est plus que ça, quoi. Non, Marco, qui venait très souvent avec sans enfants au début, mais après, quand il a eu deux enfants, il venait aussi à la maison, qu'on a la chance d'avoir dans le Vaucluse. Et il a demandé un jour à Patrick, tu ne veux pas faire une chanson sur Mila, quand il n'y avait pas encore la deuxième qui s'appelle Lily. Et Patrick a écrit cette chanson qui, comme d'habitude, est extrêmement bien écrite, simple, mais qui vient dire ce qu'elle veut dire, qui est une chanson sur l'amour et pas sur le cas sociétal, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants nés de homoparentèles. Donc, je trouve ça une jolie chanson, j'ai envie de le chanter, et puis c'est tout. Mais je ne prends pas vraiment parti. Quand on m'interviewe sur cette chanson, que j'ai chantée que deux fois à la télé parce qu'elle n'est pas sortie encore, j'explique que c'est une chanson d'amour. Puisqu'on m'a toujours rapproché de chanter que des chansons d'amour, tout est amour. Je veux dire, quand Claude Nougaro chante Toulouse, il chante l'amour pour Toulouse.
C'est marrant parce que c'est exactement là où je voulais en venir. J'ai l'impression que vous avez vécu de l'intérieur beaucoup de grandes questions de société, vous, dans votre vie. Vous avez vécu les années SIDA, vous avez accompagné beaucoup d'amis dans la maladie, dans la mort. Vous avez vécu l'euthanasie, puisque vous avez aidé votre maman à partir avec vos frères et sœurs. Vous avez vécu, de fait, l'homosexualité dont on parle depuis tout à l'heure. Et toujours, j'ai l'impression que vous avez sur ces questions un regard assez mesuré, assez nuancé, jamais définitif. Je pense notamment à l'euthanasie.
Ben, c'est-à-dire que je crois que quand il n'y a rien de plus dangereux que d'être sûr d'avoir raison. Il faut toujours se poser des questions, même au sujet de la foi, par exemple. On ne peut pas affirmer qu'il y a Dieu, qu'il n'y a pas Dieu. Les gens, plus ils sont athées, plus ils sont croyants, pour moi. Les gens qui sont sûrs m'inquiètent. Il faut toujours se poser des questions. Et ça, c'est de là, probablement plus à mon père, d'ailleurs. Parce que je me souviens, à l'époque, sur un plan politique, par exemple, il me faisait aussi écouter la radio de Moscou. Parce que si tu n'écoutes que la radio de Washington, tu n'as qu'un côté... Il faut toujours essayer... de comprendre ce que pensent les autres pour pas s'emballer trop, quoi. Donc ça, c'est peut-être aussi hollandais, hein. C'est possible que je pense quand même qu'il y ait... Bon, évidemment, quand on parle d'une nation, d'un pays, on est obligé de généraliser. Mais il y a autant de cons aux Pays-Bas qu'en France ou dans d'autres pays de ce monde. Mais il y a quand même certaines différences qu'on peut appeler culturelles, quoi.
Oui, mais justement, la Hollande, c'est un pays très progressif dans ses lois,
oui,
en tout cas.
Oui, complètement. C'est le calvinisme aussi. Et puis, depuis des siècles, ça laisse des traces. Comme le fait que les Juifs, depuis des millénaires, ont été alphabétisés dans la mesure où pour passer son bar mitzvah à l'âge de 12 ans, il fallait bien savoir lire. Ça crée aussi une formation intellectuelle, il me semble. Et les premiers syndicats étaient... ça m'avait frappé quand j'étais au lycée. Les premiers syndicats qui a existé, c'était en Angleterre, et c'était le syndicat des imprimeurs. Pourquoi? Parce que les ouvriers savent lire. C'est aussi con que ça, quoi.
Mais par exemple, pour votre maman, vous, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas sûre à 100% d'avoir pris la bonne décision?
Disons qu'on était tous très sûrs, puisque ma mère le voulait, ça c'est évident. Mais en même temps, je me souviens de quelque part du soulagement quand on l'a autopsiée. sur sa demande d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, elle a donné plus ou moins la possibilité pour servir la médecine pour qu'on étudie son cas. Et quand on a su que c'était métastasé partout, c'était ouf, on ne l'a pas fait pour rien. Quoi. Mais non, c'était en fait très peu de temps, quelques mois après son décès, quelqu'un m'a donné un livre écrit par un cancérologue qui s'appelle Lucien, qui s'appelle toujours, s'il n'est pas mort, je ne sais pas, Lucien Israël, qui avait écrit un livre plutôt contre l'euthanasie, et j'ai lu tout ce qu'il disait là-dessus. Après, je l'ai rencontré dans une radio d'extrême droite, d'ailleurs, qui s'appelle la radio...
Ah, c'est... Courtoisie.
Exactement.
Ah bah oui, il n'y en a pas mille.
Ah, il y en a quand même, c'est Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie.
Parce qu'il s'avère que, la mère d'une de mes mères, une de mes mères, mort du sida, d'ailleurs, Nicolas, elle travaillait dans cette radio-là. C'était une des 200 familles bien, bien, bien conservatrices. Et donc, lui, il faisait partie des invités, et moi aussi, ce qui prouve quand même que sa mère avait une certaine ouverture vers un autre point de vue, quoi. Et après, je l'ai pris dans ma voiture. D'ailleurs, je me souviens, en sortant de la radio, qu'il y a plein de gens qui se sont jetés sur moi pour avoir un autographe, et que lui, qui était bien plus important quand même, cancérologue, qui a sauvé plein de vies que moi, il attendait que j'ai fini de dédicacer, il se trouvait tellement nul. Bon, c'est comme ça. Et on a beaucoup discuté, il m'a fait vraiment douter, quoi. En tout cas, je suis sûr, dans la mesure, je dis qu'il ne faut jamais être sûr, qu'il ne faut pas légiférer. Mais je veux donner une explication à ceux qui écoutent ce que nous sommes en train de faire. Moi, à cette époque-là, j'avais un de mes meilleurs amis qui est mort du sida avant qu'il y ait quoi que ce soit, ni trithérapie, ni rien pour le sauver. Il souffrait, le martyr, jour après jour. Et j'ai dit donc un jour au médecin-chef, mais enfin, pourquoi faut continuer ? Et il nous a répondu, mais enfin, vous êtes là tous les jours, comment voulez-vous que je fasse ? Et on a décidé avec son ami, son compagnon donc, et moi, qui allais très très souvent le voir pour lui donner à manger, parce que la bouffe n'était pas bonne, évidemment, pas bonne. Le jour où on n'est pas venu, on a eu un coup de fil, il vient de mourir. Ça voulait dire quoi ? C'est qu'on l'a euthanasié comme on pratique, mais il était tout seul. Tandis que dans le cas de ma mère, ma mère était enterrée par ses enfants. Donc c'est là où, s'il y a une tolérance envers l'euthanasie, au moins ça se passe d'une manière... on va dire plus sympathique, quoi.
C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que quand c'est autorisé, du coup, on peut le vivre ensemble.
Il reste que légiférer, c'est compliqué, parce que tous les cas sont différents, quoi.
Vous allez l'entendre un petit peu plus tard dans cet entretien, Dave se considérait dans les années 60 comme un beatnik, qu'il oppose aux hippies. Pour lui, la différence, c'est que les hippies étaient dans un délire collectif, dans un délire communautaire, alors que les beatniks, eux, étaient dans un mouvement plus individuel, plus solitaire, très attaché à leur liberté. Et j'ai l'impression qu'il adopte encore aujourd'hui cette même liberté et ce même positionnement par rapport aux questions de société et par rapport au monde en général.
Alors vous avez eu du succès un peu tout à coup. C'était en 74 avec la sortie de Trop Beau, reprise de Sugar Baby Love des Rabbits. Et ça faisait déjà quelques années que vous étiez dans le milieu quand même, avec des hauts et puis des bas. Vous avez du coup pu regarder ça avec une certaine distance, non, quand c'est arrivé, pouf.
C'est-à-dire que la plupart des chanteurs, quand ça marche, on dit « Oh, ça marche d'un coup », mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé avant. J'avais à l'époque lu un livre aux Pays-Bas sur les différentes carrières des chanteurs français. Quand ils étaient très connus, ils avaient droit à un chapitre, et quand ils étaient moins connus, ils étaient trois dans le même chapitre. Et je me souviens que Jacques Brel était dans un chapitre avec deux autres qui n'ont pas marché, et personne ne savait que ça allait être une immense star qu'il allait devenir, donc on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait mon premier disque en 1963, j'étais encore au lycée, juste avant mon bac, et puis mon premier succès donc en 1974. Il est vrai aussi que je ne suis pas spécialement... Ce n'est pas en partant sur un rafio, vieux rafio, qu'on fait carrière, mais c'est vrai que je ne voulais pas spécialement... Je suis donc la génération beatnik, et pour un beatnik, le mot ambition est un gros mot. Je voulais juste vivre en chantant, mais je ne voulais pas faire carrière, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis déjà, au lycée, on me trouvait plutôt caustique, donc ça ne rend pas spécialement sympathique. Donc quand j'ai devenu chanteur populaire, c'était le premier surpris. Quoi. J'ai dit, moi, populaire, on croit rêver. Et quand ils ont su que j'étais plus malin que la plupart des gens qui m'achetaient... très, très, très modeste de nouveau. Ils ont arrêté de m'acheter. Mais c'est vrai que quand on m'a dit, par exemple, ça, je pense que c'est un bon exemple, que je n'avais pas la grosse tête, j'ai essayé d'expliquer aux gens que depuis l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, on m'avait dit que je chantais bien. Donc, ce n'est pas parce que tout d'un coup, on allait acheter mes disques que ça change quelque chose. J'ai toujours pensé que je chantais bien. On peut ne pas aimer ma voix, on ne peut pas aimer mes chansons, mais je chante bien. Ce n'est pas de ma faute. Un jour, quand j'avais pris des cours d'art lyrique, J'avais un petit problème vocal et mon prof de chant, qui était une ancienne cantatrice, m'avait envoyé voir un ORL spécialisé dans le chanteur d'opéra. Et lui m'a dit, en regardant dans ma gorge, « Monsieur, vous avez un Formule 1 dans la gorge. Apprenez à conduire. » Donc voilà, ça a un nez avec, quoi. Après, en effet...
D'ailleurs, c'est ça que vous ne supportez pas quand on vous dit que vous chantez mal, parce que vous dites bah, « je peux tout entendre, mais ça non ».
Non, non, je déteste ce que vous faites, je ne supporte pas votre voix, tout ça, je le comprends. Et quand je faisais la manche, déjà, quand j'ai passé la petite assiette et que les gens disaient non, ben, disent non, voilà. Et je restais gentil quand même, parce qu'on ne sait pas, le jour avant, j'allais changer d'avis, comme il restait 15 jours en Saint-Tropez.
Bah, on a du mal, justement, à imaginer cette liberté que c'est d'acheter un bateau, puis de faire de la manche dans la rue à Paris, puis de partir à Saint-Tropez en été, et d'en vivre, de pouvoir en vivre.
C'est l'inconscience. C'est aussi un
est-ce que c'est la manière
d'âge.
De raconter ou est-ce que c'est la réalité?
Non, c'est la pure réalité. Avec quand même des moments de grande inquiétude avant de partir, je disais, mais on va vivre de quoi? Comment on va faire? Et c'était mon copain, donc, qui est aujourd'hui mort, qui s'appelle Yost, qui avait déjà fait la manche et qui m'a dit, tu vas voir, c'est possible. Moi, j'ai gagné de l'argent en Espagne. Il avait gagné un peu d'argent à Genève, je me souviens. Et il dit, tu vas voir, sans problème. Évidemment, on ne va pas être riche, mais on va pouvoir manger, acheter du mazout, du fuel domestique pour le moteur, du bateau, etc. Donc, mais c'est vrai, je me souviens notamment, on s'est arrêté à Liège, sur la Meuse, et on allait faire les courses. Il y avait le nouveau James Bond qui venait de sortir, et qu'on se dit, bah voilà, c'est un exemple, on n'aura pas d'argent pour aller vers le dernier James Bond, mais on aura de l'argent pour acheter à manger.
Mais vous aimiez bien avoir quand même toujours 50 francs de côté
Ah, bah à l'époque, si on n'avait pas 50 francs, on risquait de se faire arrêter pour vagabondage.
Ah, du coup, fallait les avoir.
Voilà.
Et puis là, vous êtes à Saint-Tropez, il y a Eddie Barclay qui vous voit, il vous donne sa carte. Enfin, vraiment, ça se passe comme ça.
Ah, tout ça, c'est pas des légendes. C'est-à-dire que tout ce que je raconte, je l'ai vécu et je ne l'ai même pas embelli parce que ce n'était pas la peine. C'est tellement joli déjà. C'est tellement inspiré. Ma propre vie m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais aux Pays-Bas. Donc, je ne sais pas si ça a jamais été traduit. C'était un petit vendeur de journaux qui finit PDG d'un grand ensemble de journaux. C'est donc possible. Et moi, je me souviens, quand je suis allé chanter pour la première fois aux Pays-Bas, moi qui étais parti avec un vieux rafio pourri et je suis revenu avec un Mercedes 600, tu te dis, c'est quand même possible, quoi. C'était en 20e siècle, c'est le siècle dernier, mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes aussi du siècle dernier.
Je suis aussi du siècle dernier.
Donc, nous sommes tous du siècle dernier.
Mais est-ce que c'était mieux avant, quand même? On a du mal à se dire qu'on pourrait faire ça.
Moi, je ne pense pas que c'est très différent. Je suis optimiste de nature, donc j'espère qu'il y a une petite évolution dans l'espèce humaine, mais je ne suis pas si sûr. Je pense quand même que nous sommes des dangereux parasites sur notre globe et qu'on finira bien par l'avoir et qu'on va tous mourir, mais pas tout de suite.
Ce qui répond parfaitement à la question « Est-ce que c'était mieux avant ?» Non, ce n'était pas mieux avant, on va juste tous crever.
Oui, voilà, exactement. Donc, ça n'a pas tellement changé.
Et justement, au moment où ça commence à marcher avec Trop beau, vous étiez en pleine tournée de Godspell, une comédie musicale qui a tourné pendant 2 ans, pendant laquelle vous êtes devenu très ami avec Daniel Auteuil, ouais. Qui à l'époque n'était pas connu.
Non plus.
Et ça avait l'air génial, cette tournée de Godspell.
Ah oui. C'était le bonheur. Vraiment le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est des petits moments. Mais là, c'était de 19h, on arrivait au théâtre vers 19h et on partait vers minuit. Tout le soir, c'était le bonheur. C'est quand même formidable. Et en plus, c'est la première fois de ma vie où j'étais payé au mois, donc pas de souci de survie comme j'avais avant, quand même si ça ne m'inquiétait pas. Hein, j'ai toujours assez optimiste. Quand on est complètement fort, on rebondit. En tout cas, moi, j'ai toujours rebondi. Et j'espère encore rebondir. On a tous en tête l'immense rebondissement d'Henri Salvador et tous les vieux chanteurs pensent à Henri Salvador.
C'est vrai.
Ben oui, il avait 84 ans, personne n'a voulu de Jardin d'hiver de Karenan et Benjamin Biolay. Il y a une petite maison de merde qu'il a signée, qui s'appelle Source, qui depuis marche mieux. Et il a vendu 2 millions d'albums. Donc moi, j'ai créé un album qui est tout prêt, j'espère faire répéter ça. Mais... Et l'autre jour, Hugo Frey m'a téléphoné. Hugo Frey, qui va avoir 90 ans cette année, il me dit « Mais t'es encore un peu jeune. Je vais en avoir 75, donc c'est Miron. » Lui, il espère faire aussi le coup d'Henri Salvador. Hein, sur un album cette année.
On l'appelle comme ça, on parle le coup Henri Salvador.
Ah, le coup Henri Salvador, ça fait rêver tout le monde. Même les maisons de disques, donc ils écoutent quand même.
C'est comme le coup Michel Legrand pour l'amour, de rencontrer sa femme, la femme de sa vie, qui a 84 ans.
Oui, c'est vrai.
Il la connaissait. Ouais.
Non, mais moi, je reçois toutes les semaines les parades de vente, et j'avoue, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein. Je ne connais plus personne. Il y a bien quelque part un Julien Clerc ou à la rigueur un Fiori que je connais parce qu'ils sont quand même, ils ont déjà 50 ans ou Bruel qui a 60. mais sinon, je comprends rien aux noms, quoi. Il y a des noms incroyables.
Vous pensez à quel nom, par exemple? Aya Nakamura?
Non, ça encore, bon, c'est étranger. Non, il y en a un comment ça s'appelle? Le numéro 1, numéro 2.
Maître Gims.
Non, une tasse de café ou je sais pas. Vous voyez pas le nom que je veux dire? Je vais vous le trouver.
Hein. Parce que même moi, je suis pas très forte sur le top 50.
Vous allez voir, je vais vous le dire. Mettez une main sur pause si vous voulez, mais parce que c'est incroyable, quoi.
Vous l'avez?
Oui. Ah non, parce que c'est insensé. Insensé. Trois cafés gourmands.
Aucune espèce d'idée.
Ça
non,
vous dit, non, vous ne connaissez pas, non. Mais ça fait plusieurs semaines, ils sont dans le premier trois. Le numéro un, c'est l'homme pâle.
L'homme pâle, ça je connais. C'est un rappeur.
Le numéro deux, c'est Angèle, la petite belge.
Oui, la petite belge. Mais l'homme pâle, c'est un peu la même famille dans le hip-hop que Angèle. C'est
trois
très
cafés
bien.
Gourmands, Yule.
Ah, Jules.
Yule, I-U-L-E, c'est un insecte qui fait mal. Donc, je l'appelle Yule. Après, c'est
Yule, c'est les mille pattes. C'est toujours dans
exactement,
les mots fléchés.
Exactement, bravo.
Donc, on espère faire le coup Salvador. Mais bon, ça arrivait avant Internet. Et peut-être qu'il faut être premier en streaming maintenant.
Il ne faut pas rêver. Une chanteuse, un septagénaire ne sera pas premier en streaming. Là, il faut vraiment une grosse surprise. Mais il y a quand même les albums physiques. Donc, moi, je finirai par sortir sur Amazon et autres streaming comme ça. Mais le vieux commence quand même à acheter un peu là-dessus aussi, hein. Commence à connaître. Pas bien, mais commence à connaître. Enfin bref, c'est pas facile, mais vous savez, Aznavour a sorti, il n'y a pas longtemps, un an avant sa mort, il a sorti un album. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas envie de créer encore. Mais c'est pareil pour les peintres, c'est pareil pour le compositeur, pour tous ces cris. Jean Dormesson, Dieu sait que je le respectais, pour ne pas dire que je l'aimais tendrement, je l'ai rencontré, sinon il n'y a pas de temps. D'ailleurs, je me souviens d'une télé où il était là, c'était le final de l'émission où c'est Julien Doré qui a gagné. Et moi, je suis arrivé parce qu'il avait chanté Vanina, mal, mais avec beaucoup de charme. Et puis Jean Dormesson est arrivé. Je dis, waouh, je ne suis pas le premier. Je suis pas le plus vieux dans l'émission. Finalement, c'était moi le plus vieux. Ma vie me battait quand même. Et Jean Dormesson, à la fin de sa vie, il a sorti 4-5 livres qui se suivaient. Un peu le même livre, d'ailleurs, mais toujours très bien écrit. Et donc, on veut continuer à créer. Ce n'est pas une question d'âge.
Ça, j'imagine bien. D'ailleurs, les gens qui raccrochent, en général, ils reviennent.
On ne peut pas raccrocher. Françoise Hardy, il y a des années, elle a dit qu'elle a raccroché. Puis elle a refait un album après. C'est vrai qu'elle a tenu bon pour la scène. Pourtant, je l'ai encore vu avant-hier sur Mélodie. Je ne sais pas, vous connaissez la chaîne Mélodie. Je travaille pour Mélodie, d'ailleurs. Et où elle chante en direct. À l'époque, elle ne chantait pas si mal que ça en direct. Mais elle était, paraît-il, très malheureuse sur scène. C'est-à-dire que moi, la scène, c'est le nirvana pour moi.
C'est incroyable, vous anticipez toutes mes questions. Mais du coup, la scène, c'est le nirvana pour vous.
Voilà, on enchaîne.
C'est ce que je voulais dire.
J'ai tout dit.
Non, mais oui, vous, vous vivez pour la scène.
Non, je peux l'expliquer aux gens. Parce que tout le monde se doute bien que quand on est sur scène, que ça a un coup d'adrénaline, on ne peut plus positif. Mais ce que les gens ignorent, et même moi, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, je n'en étais pas vraiment conscient, c'était en tournant il y a 4 ou 5 ans avec Annie Cordy, donc il y a 90 ans aussi, et qui vraiment avait un vrai problème des genoux, qui boitait toute la journée, on avait pitié d'elle. Elle montait sur scène, elle chantait les bonnes du curé, elle dansait comme une gamine. Parce qu'il n'y a pas que l'adrénaline, il y a aussi de l'endorphine qu'on sécrète soi-même, qui fait qu'on a vraiment plus mal. Et moi, ça m'est arrivé de monter vraiment enrhumé, malade comme un chien sur scène et sortir au bout d'une heure et demie, guéri. Et en plus, nous paye.
Et d'ailleurs, je crois qu'une des tournées qui vous a le fait le plus de bien, c'était après votre problème cardiaque, enfin après votre opération cardiaque.
Ben, c'est-à-dire que,
en 2010,
surtout que ça, ma cardiologue, qui est la sœur de Marc-Louis Fougel, Marianne Fougel, avait bien compris qu'il faut faire la rééducation. Après, mais elle a vite vu que la rééducation, c'est vraiment chier, comme on dit au vieux François. Donc, elle me dit, mais monte sur scène. Et moi, je me souviens, je suis arrivé quelque part, pas très loin de Paris, vers l'Est. Et j'ai rarement été aussi accueilli comme une espèce de miraculé qui, 5 semaines après une opération quand même assez lourde, quoi, était sur scène et sautait dans tous les sens, quoi. Et c'est vrai que ça aide, quoi. C'est exceptionnel, ce qu'on dégage.
J'avais très envie de parler à Dave de sa relation amoureuse avec Patrick Loiseau. Il faut savoir que non seulement ils ont travaillé ensemble, mais ils ont vécu plusieurs fois à trois. Dave a eu des aventures avec des femmes et des hommes dont il a été amoureux. Patrick aussi. Patrick, dont le premier amour pour la petite histoire était d'ailleurs Anthony Perkins, l'acteur principal de Psychose. Mais le truc, c'est qu'au moment où je voulais lancer le sujet, l'aborder, Patrick était là, à quelques mètres de nous. D'où, je pense, le fait que Dave ne s'attarde pas beaucoup sur ce sujet, sur lequel il a par ailleurs beaucoup écrit. Rappelons sans cesse que Patrick a toujours été là, notamment pendant sa traversée du désert.
Comment vous vous êtes rendu compte que votre célébrité directement changeait vos rapports avec les gens ? Parce qu'il y a un moment où...
Ah, il y a un moment très précis de ma vie. C'est-à-dire que je partais en gala, comme on ne dit plus aujourd'hui. Et on a quitté donc avec mon manager et mon garde du corps à l'époque de l'autoroute. On s'est arrêté, il y avait un paysan qui labourait son champ. Et on lui a demandé la route. Et il m'a répondu normalement pendant une minute. Et puis tout d'un coup, il m'a regardé dessous comme ça. Il dit, mais vous n'étiez pas le chanteur ? Vous voyez passer à la télé, et j'ai senti que le rapport changeait. Et ça peut être positif comme négatif. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, ce matin, je suis parti avec 6 montres de mon compagnon, parce qu'on a déménagé, il s'est rendu compte qu'il y en avait plein, parce qu'on aime bien les montres, mais qu'il n'y avait plus de piles dedans. Et j'ai dit, laisse-moi y aller, ça sera plus simple. Et c'est vrai que je suis arrivé dans la boutique, le mec l'a changé tout de suite, quoi. Ça, c'est l'avantage de la notoriété. On fait rarement la queue, on va passer devant. Mais en même temps, ça fauche le rapport aussi. Donc ça, il faut le savoir. Mais ça peut être positif comme négatif, quoi.
On se rend bien compte pendant les petites traversées du désert que ça fausse les rapports.
Bah, c'était pas petit, la traversée, ça a duré quasiment 10 ans. Mais disons que là, évidemment, j'ai des histoires pour tout, j'ai un nombre d'anecdotes. Mais c'est vrai que quand on n'est plus médiatisé, mais qu'on s'est fait reconnaître. Moi, je n'ai pas connu l'état suivant, c'est-à-dire l'état où tu as fait des succès, mais tu passes tellement plus la télé qu'on ne te reconnaît plus. Tant que moi, j'ai eu le stade où les gens me disaient quotidiennement, mais 20 fois par jour, « Ah, Dave, tu chantes plus, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi maintenant ?» C'est vraiment éprouvant, surtout que tu chantes tout le temps.
Donc, parce que vous n'avez jamais arrêté la scène.
Non. Mais comme tous les chanteurs. Tant qu'il y a du boulot, on y va. On change juste les prix, quoi. On devient moins cher. Et là, c'est vers 1h du matin, on n'habitait pas le 20 d'ici à l'époque au boulevard d'Auteuil, donc sur le bois de Boulogne. Et là, j'ai dit on sortait le chien avec mon compagnon Patrick, et j'ai dit, je te rends compte, personne aujourd'hui m'a dit, Dave, tu chantes toujours. Et à ce moment-là, il y a une voiture de flic qui s'est arrêtée, les mecs sont dit, oh Dave, vous chantez plus? Oh merde, tu vois. Donc ça j'ai eu droit, et c'est lourd.
Ça doit être. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on parle souvent de vous comme quelqu'un d'assez cynique, et moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse pas l'être quand on voit les gens changer complètement de comportement à votre égard en fonction de votre code de
popularité.
Ouais,
je suis pas cynique. Je veux bien que je caustique, je veux bien.
Caustique, mais pas cynique.
Caustique et cynique, il y a quand même une nuance, quoi. C'est vrai que je pratique une forme de sarcasme. Ça, c'est évident. De l'autodérision, qui est une denrée plutôt juive new-yorkaise, mais je ne suis pas new-yorkais. Mais je peux faire mal. Disons qu'à force de vouloir faire le mariole, comme dit Patrick, quand je rentre à la télé, tu as encore fait le mariole. Bon, d'accord, tout le monde dit, c'était formidable, tu as encore fait le mariole. Mais ça, c'est bien d'avoir quelqu'un à la maison qui dit la vérité. Et donc, on peut croire peut-être que je suis cynique, mais ce n'est pas du cynisme. Et moi, je pense que je suis lucide. Et lucide, quand on l'est trop, ça devient assez pesant aussi, quoi.
Pour soi-même.
Ouais, pour soi-même. Il faut mieux être un imbécile heureux que lucide. Non, on se fait pas.
Mais quand même, je me dis, vous vous racontez des histoires où les gens qui vous traitaient comme un roi, 10 ans plus tard, veulent pas vous prendre au téléphone, ou des histoires comme ça. Mmh. Ça, c'est sur la nature humaine, ça...
C'est-à-dire que déjà, il y a une chose, la célébrité, elle est une espèce de catalyseur de la connerie humaine, ça c'est évident. Quand vous avez affaire à des gens en de plus sensés, intelligents, intellectuels, avec des métiers plutôt et une réussite sociale plutôt évidente, et qui se mettent à trembler parce qu'ils voient quelqu'un qui passe à la télé, tu te dis, mais enfin, c'est rien, quoi, c'est un métier comme un autre. Mais. Qu'on rencontre des gens qui, comme vous dites par exemple, ne vous prennent pas au téléphone, mais ça prouve juste la connerie humaine aussi. Donc, on sait très bien, on a toujours le compte de quelqu'un, et je le suis sûrement.
Et quand on revient à la lumière après quelques années d'ombre, est-ce qu'on prend ses précautions ?
Sur un plan pratique, oui. C'est-à-dire que quand je me suis mis à ramer dans les années 80 parce que je ne vendais plus, donc ça a fait des différences financières très important. Et je me suis bien dit, si un jour le train du succès repasse, je ne ferai pas la même erreur. Parce que là, je suis arrivé à un stade, comme un jour, j'avais une cheminée, mais acheter du bois, ça devenait cher. Donc, j'ai ramassé du bois dans la rue. J'espère que personne ne l'a vu. Pour fermer le feu dans le cheminée, pour faire des petites économies.
Est-ce que c'est sur le rapport à l'argent, par exemple, que vous voyez encore vos différences culturelles avec les Français ? Est-ce que c'est un truc dont vous parlez très librement ?
Moi, je parle
librement.
Trop de l'argent, ouais.
Vous en parlez beaucoup.
Les Hollandais, déjà, sont très, ils n'ont pas cette réputation d'avare qu'ont les Écossais, à tort ou à travers, comme je disais tout à l'heure, on généralise. Mais les Hollandais sont économes. Donc, j'ai une certaine notion de l'argent, oui. J'en parle beaucoup, oui. Parce que j'ai toujours pensé à un bio que j'avais lu de Sophia Loren, qui a eu beaucoup d'argent dans sa vie, mais qui a aussi eu des périodes plus difficiles. Et c'est vrai que j'aime un certain confort. Je m'en fous du luxe, mais un certain confort, oui. Et vivre dans une maison agréable, etc. Donc pour ça, il faut de l'argent. Donc quand ça a remarché, j'ai décidé de mettre l'argent de côté. Mon problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que nous allons mourir. Donc, j'en ai de côté. Je voudrais bien le dépenser avant de mourir. Mais je ne sais pas quand c'est.
Ça va s'arranger.
Ça va s'arranger. À un moment, je le saurai. Oui, mais je ne sais pas. J'ai la dernière minute, j'ai le temps de prendre l'avion pour aller au soleil.
Est-ce que vous avez l'impression, en parlant de ça, c'est parfait ? Vous n'êtes pas fait ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un survivant ? Est-ce que vous avez survécu à beaucoup de vos amis ? Vous avez survécu à vous-même, puisque votre cœur s'est arrêté pendant 45 minutes.
C'est vrai, c'était pas l'opération.
Il y a 8 ans.
Je pense que survivant, non, chanceux, sûrement. C'est-à-dire que déjà, je parlais tout à l'heure à un moment de Van Gogh, donc, parce qu'on dit toujours, et je l'ai entendu dire par Maurice Chevalier dans une vieille émission que j'ai vue sur Mélodie, où il disait ce qui est le plus important dans la carrière d'un artiste, c'est la chance. Parce que moi, je disais toujours TTC, travail, talent, chance. Je le mets au même niveau. Mais c'est vrai que si tu n'as pas de chance, comme Van Gogh, mais tu ne vends pas. Hein. Et il a beaucoup bossé, il avait beaucoup de talent, il n'a pas vendu. Bon, sa malchance, c'était Théo qui était mauvais vendeur.
Ou peut-être que quand même Vincent Van Gogh était vraiment fou et que ça peut mettre un obstacle aussi.
Oui, mais il avait donc son frère qui s'occupait de vendre ses tableaux, quoi. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a sûrement des chanteurs. Moi j'ai longtemps chanté avec un de mes vieux copains qui s'appelle toujours le Charlie Brutus MacLay. Et c'est vrai qu'il est fou, mais c'est vrai qu'il chantait vachement bien, mais il n'a jamais eu de la chance. Et quand il a eu des petites propositions, il était tellement fou que je faisais peur aux gens. Moi, j'étais peut-être plus raisonnable, mais c'est vrai qu'avant tout, j'ai eu beaucoup de chance, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. C'est évident.
Et depuis que votre cœur s'est arrêté, on en a parlé, est-ce que ça a changé votre rapport à la vie ou pas tellement ?
Non, ce qui a changé le rapport à la vie, c'est plutôt la mort de mes proches. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la mort rentre dans votre vie, en gros, c'était, on va dire, vers 1990, donc ça fait bientôt 20 ans, donc j'avais que...
Ça fait 30 ans bientôt.
30 ans, oui. Ouais. Donc j'avais que 40 et quelques, entre 40 et 50 ans, logiquement, vos amis, vos proches ne meurent pas autour de vous. Et nous, oui. Donc, c'est là où on a une mentalité des petits vieux, quelque part. Parce qu'on rencontre des amis qui avaient le même âge que nous, ou même plus jeunes, qui avaient 30, 40 ans, et que tu n'osais même pas demander comment va ton ami, parce qu'ils ne savaient pas s'il était encore vivant. Ça arrive normalement à partir de 70. Aujourd'hui, j'ai 75 ans bientôt. Ça devient un peu plus acceptable, même si je n'ai pas hâte de partir spécialement. Donc, c'est vrai que là, la mort est rentrée dans notre vie 30 ans trop tôt, dans la vie de tout le monde. En tout cas, oui, dans le monde occidental. Et non, dans le monde tout court. Le sida est arrivé partout.
Mais d'ailleurs, vous avez été au courant un petit peu avant la majorité des gens, parce que vous alliez beaucoup en Californie à l'époque.
C'est vrai qu'on a eu affaire, au début des années 80, où en France, on était encore complètement inconscient, en tout cas pas au courant. Donc, ça y allait dans tous les sens. Il y avait une espèce... En gros, le libertinage, la liberté sexuelle est arrivée, on va dire, vers l'époque de Hare, en 1968-69, après mai 68, et s'est arrêté vers 84, à cause donc, de l'arrivée de cette maladie létale liée à l'amour, en tout cas à l'amour physique. Donc, c'est vrai que nous, on est de la génération, on en a bien profité, et je ne regrette rien, je regrette juste d'avoir perdu beaucoup d'amis à cause de ça.
Parlons un peu d'amour, justement. Vous avez rencontré Patrick, que je vois, qui est juste à 5 mètres de moi, dans un bar d'after. C'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. À l'époque, c'est pas comme ça qu'on disait. Où vous chantiez, puis lui, il avait l'air d'un ange.
Oui, c'était pas vraiment un bar d'after. Il fermait juste jamais, quoi. Donc, on pouvait y aller. On pouvait y aller 9 heures le soir, mais ça marchait bien encore 5 heures le matin, oui. Mais non, oui, c'est vrai que je chantais, donc c'était avant d'être connu, évidemment, je chantais là-dedans le vendredi, samedi, et parfois le dimanche. On arrive vers 11h, minuit, parce qu'avant, je chantais dans une crêperie. Et après, j'ai chanté donc, dans ce bar rue Saint-Jacques. Et un jour, il y avait en effet ce beau jeune homme qui ressemble un peu à Taggio dans Mort à Venise, et moi à Dirk Bogarde dans le même film. Enfin, j'exagère un peu, pas pour lui, mais pour moi. Et donc, je l'ai vu et c'était... c'est pas un coup de foudre comme ça, c'est juste que je le trouvais très beau. Et si j'avais pas bu une bonne dizaine de Calvados, je n'aurais jamais osé le parler. Mais là, j'étais désinhibé par l'alcool.
Et vous y êtes allé directement. Et le lendemain, vous avez espéré qu'il revienne.
Et il est revenu. Et puis après, on s'est donné rendez-vous l'après-midi, le dimanche. C'était donc vendredi, samedi, dimanche, 6, 7, 8 février 1971.
On va bientôt les fêter.
Exactement, j'ai 48 ans. Ouais.
Aujourd'hui, quand vous voyez la même personne. Je vous avais déjà dit que pour vous, c'était un miracle que l'amour puisse continuer à faire vivre le désir aussi longtemps, par exemple.
Ah oui, c'est un des plus gros miracles de la vie. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Moi, je considère ça comme du morphing, quoi. C'est-à-dire qu'on voit... un mélange de ce qu'on est devenu et de ce qu'on était. Mais même moi, dans la glace. Malheureusement, quand on se voit à la télé, non. Parce qu'à la télé, si on est mal éclairé, si la caméra n'est pas placée là où il faut, si l'éclairage n'est pas bon, on peut vraiment bouger de 10-20 ans. Hein. Et, tandis que dans la vie, quand on se regarde dans la glace, sauf si moi, j'ai une nouvelle salle de bain, c'est vraiment... La lumière au-dessus est très méchante avec mes cheveux. Mais j'ai pas envie, tant pis. Mais globalement, on voit quand même un peu ce qu'on était aussi. Entre ce qu'on, et je regarde donc mon Patrick comme ça. Même si de temps en temps, j'ai des petits moments de lucidité. Je dis, qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas longtemps.
Mais c'est vrai que le désir comme ça survive.
Ah ben ça, heureusement, hein, on sait qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à avoir un libido. Mais ça se calme quand même, et ça c'est bien fait. Hein, parce que heureusement que ça se calme, parce que moi je regarde avec plaisir des jolies jeunes filles ou de beaux garçons, mais je ne m'imagine pas du tout dans le lit avec. Et ça tombe bien, parce qu'eux non plus. C'est bien fait.
Et avec Patrick, vous avez testé pas mal de modalités de couple. Je crois que vous avez vécu à trois plusieurs fois, deux fois, si je m'abuse. Vous avez pu tomber brièvement amoureux d'autres personnes. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu moins libre? Moi, c'est un peu mon impression.
Ah oui, je pense, oui. Ah oui, je crois que le top de la liberté, pour moi, ça serait dans le personnage de Coluche, quoi. Tout ce que Coluche était proche, quoi. Tout ce qu'ils ont pu dire, comme aujourd'hui, il n'y a pas question, quoi. Il n'y a plus d'émissions de télé en direct, par exemple. Parce que moi,
Même le président ne s'exprime plus en direct.
Vous vous rendez compte? Non, mais moi, je sais que dans l'émission que j'ai eu le plaisir de présenter pendant plusieurs années, qui s'appelle Du côté de ses élèves, des horreurs que j'ai pu dire, je n'aurais jamais pu le dire en direct. Et je regrette bien qu'on en a enlevé plein. Hein. On en a laissé pas mal, parce que je luttais quand même. Je n'allais pas au montage parce que c'est trop chiant. Mais ils en ont beaucoup, beaucoup enlevé. Hein.
Vous avez aussi animé l'Eurovision avec Marc-Olivier Fogiel.
Ah là, on est en direct. Donc parce là, ils n'ont pas pu enlever. On était virés. Non, mais c'est vrai
qu'il y a... Vous étiez trop méchants et affreux.
Non, je ne trouve pas. Moi, je cite toujours l'exemple de la chanteuse israélienne où on sait, Marco, je crois que c'est moi qui ai dit, Marco, tu ne trouves pas qu'elle fait vivre? Ben, chanteuse israélienne, ça me semble tout à fait normal. Et on a eu droit à une plainte. Non, mais c'est incroyable, quoi. Non, là, sur l'aveugle, on est un peu hard. Parce que c'est une chanteuse espagnole, je crois qu'on est aveugle. Oui, vu la robe qu'elle a, on ne l'a pas vue, ça c'est sûr. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, on était jeunes.
En l'occurrence, je pensais plutôt à la liberté, mais ça m'intéresse aussi, mais à la liberté en amour, ouais.
Sûrement, mais je pense que dans tous les... Je ne sais pas, honnêtement, ce n'est pas ma tasse d'été, mais je crois qu'il y a des clubs de libertinage, des clubs d'échangistes, tout ça, ça existe. Mais c'est beaucoup plus caché qu'avant, ça c'est sûr. Mais vous savez, à l'époque, avant, dans les années 70, il y avait dans chaque émission de télé une personne payée par les différentes chaînes pour surveiller le langage des gens. surveiller.
Le langage ?
Ouais. Pour pas dire bite, couille, ou des choses comme ça, c'était totalement pas possible, quoi. Après, quand Coolidge est arrivé, tout ça. Et aujourd'hui, quand tu écoutes Ruquier, quand même, bon, c'est tard, c'est sûr qu'on n'a pas dit soirée, mais dans son émission, on dit quand même des choses assez hard encore.
Dave, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez peur de la mort ?
J'ai absolument pas peur de la mort sur un plan intellectuel. Et quand je prends l'avion, que ça bouge, je me fais caca dessus. Donc, il y aura un contradictoire. Quand même. Non, pas vraiment. Hein. Non, mais j'ai... Oui, toi. Donc, c'est-à-dire que quand on se raisonne, on se dit non, parce que qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien. On arrête, tout s'arrête.
C'est tout.
C'est comme les piles qui sont mortes, quoi. Les radios ne marchent plus. Donc, j'ai vraiment, même si je disais que je suis déiste et que je crois à l'au-delà d'une certaine manière, je ne crois pas du tout à l'enfer, ni au paradis. Non, ça s'arrête et c'est très bien comme ça. Moi, sur ma tombe, pour finir en beauté, je vais remettre ouf.
O-U-F.
Parce qu'il y a O-U-F, parce que c'est dans deux sens que ça marche. Puisque ça devient fou, je veux dire, fin.
Ah, en plus, ça sera en verlan, moderne jusqu'au bout, Dave.
Sans faire exprès.
Merci beaucoup, Dave, pour votre
ouf.
Temps.
Dernier mot.
Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes, présentée par Marie Misset, réalisation Aurore Meilleur-Mailleux, mixage Laurie Galligani, coordination et prise de son Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.